Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai mon avis là-dessus, mais j'ai, c'est pas ce qui m'intéresse.
Mais il faut pas non plus oublier d'où on arrive. Il faut garder les pieds sur les épaules surtout.
On a des facteurs des fois. Moi, j'ai jamais des facteurs parce que je dis facteurs, je prends 10 matchs.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Gilbert Brigois.
Avec Walid Acherchour, avec Thibault Leplat, évidemment, on a passé trois quarts d'heure sur l'affaire Neymar-Mbappé. Du coup, on n'a pas parlé du sportif du PSG, qui globalement, quand même, pour le dire, fonctionne. Et on n'a pas parlé non plus de Donnarumma, j'aimerais qu'on en parle dans la semaine.
Ouais.
Parce que Donnarumma, très franchement, il y a un truc que je ne comprends pas.
Ça commence à faire un peu peur, Donnarumma.
Ouais. Vous avez vu sur le deuxième but de Montpellier, même si il est petit côté, il a juste à fermer son côté, le gars il plonge à droite, genre il ouvre le but en fait.
Même si je trouvais souvent Gilbert très dur avec Donnarumma, mais c'est vrai que là les dernières prestations...
Même les prises de balles, ouais. Il n'est pas net.
Ouais, non, mais pour moi c'est assez... après,
en fait, c'est juste un choix économique. T'avais un des meilleurs gardiens du monde qui était là, c'était foutu dehors.
C'était une opportunité de marché.
T'as
un gardien de 22 ans qui. On avait dit la même chose au Thibaut Courtois.
Je préfère les opportunités sportives que les opportunités de marché.
Gilbert, jurisprudence, Thibaut Courtois, on avait dit la même chose au Real Madrid quand il arrive. Ses débuts sont catastrophiques. Regarde Thibaut Courtois au Real Madrid.
Ouais,
il avait 26 ans.
Avec le même cas de figure du Paris Saint-Germain, avec Keylor Navas, qui était encore là et qui se fait encore foutre dehors.
Oui, c'est ça. Mais malheureusement, parce qu'il était un peu vieillissant et tout le monde avait dit mais attends, Keylor Navas, il vient de gagner 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Comment on peut aller chercher Thibaut Courtois qui a 26 ans? Ouais, bah 26 ans, 30 millions d'euros, opportunité de marché. Merci pour tout, Keylor Navas. Et là, aujourd'hui, Thibaut Courtois, c'est le meilleur gardien du monde. Donc attention, mais je suis d'accord avec toi sur Donnarumma, il n'est pas rassurant sur les dernières semaines.
Il est flippant même. La meilleure affaire de gardien de but ces dernières années, c'est Milan qui l'a fait avec Maignan.
Oui.
Bah oui. Là aussi, le PSG s'est planté.
Oui.
Bref.
Même si, bon, Maignan, à l'époque, moi, je. J'ai
quoi
beaucoup
d'humilité. Maignan, la saison qu'il fait avec Lille?
Oui, d'accord, mais il appartient plus au PSG à ce moment-là, non? Quand il est à Lille.
Écoute, en tout
mais
cas.
Mais avant Lille, j'ai l'humilité de penser qu'il n'était pas.
Enfin, non, c'est surréaliste.
Oui. Ils ont choisi Areola à l'époque.
Voilà, que c'est encore un bon choix.
Qui avait fait des prêts à Bastia et à Lens et à Villarreal. Plutôt intéressant, mais qui s'est vautré derrière.
Bon, l'OM, on y va. Alors, avant l'avis de Walid, dans quelques instants, les infos de Florent Germain à Marseille. Pourquoi Igor Tudor ne titularise pas Dimitri Payet? Alors, en fait, il y a différents éléments. Déjà, un élément d'ordre sportif et physique. On estime, dans le staff de l'OM, qu'il n'est pas en forme physique optimale. Voilà. Alors, je sais pas s'il y a des éléments concrets de... Tu vois, de...
J'ai pas ressenti ça.
Physique...
C'est un grand classique de la saison.
C'est de la bonne communication, ça.
Oui, puis après, c'est facile de dire physiquement, il n'est pas au top.
Ouais. Voilà. Ils ont dit la même chose pour Mamba Dieng, qui était, pour moi, par rapport à d'autres. J'en parlerai dans 10 minutes d'un autre joueur. Pas sûr que physiquement, lui, je vous fais un petit teasing, mais il soit irréprochable. Hein. Mais bon, il est sur le terrain.
Hein. Et Sampaoli a dit la même chose, a constaté la même chose en privé à son arrivée avec Payet. Et il l'a mis en double session. Payet était tellement motivé qu'en un mois, c'était réglé. Il a ensuite marché sur la Ligue 1. En tout cas, pour les 6 premiers mois, il était exceptionnel.
Après, il faut mettre un jeu en place pour essayer de le stimuler aussi.
Voilà.
Ça, c'est un autre débat.
C'est le fond du problème. C'est que Payet, c'est, comme le dit Flo dans son papier, c'est un affectif.
Ouais.
C'est surtout un baromètre de ce qu'est l'OM.
C'est un affectif du foot, surtout aussi.
Et outre les problèmes physiques éventuels, il y a autre chose. En fait, c'est tout simplement expliquer à tout le monde, écoutez, le patron ici, c'est pas Dimitri Payet. C'est moi, Igor Tudor. Voilà.
Pourquoi
et
pas.
Ça se confirme.
Ça s'appelle pendre en place publique, c'est-à-dire on en prend un au hasard et
ah non, pas au hasard.
Au hasard, là, c'est capitaine là quand même.
Et oui.
Non, en tout cas le premier.
Parce qu'au début, je rappelle qu'il voulait pendre Guendouzi et Payet. Enfin, je pourrais prendre ton expression.
Oui, mais
si vous voulez les mettre sur les deux sur
c'est
le banc.
C'est des techniques de management, ça. C'est des techniques. Certains font ça dans les grosses boîtes. Ils arrivent, tu sais, les types qui reprennent les grosses boîtes, ils prennent l'ancien chef, le premier qui lève la main.
Le numéro 2, le numéro 3.
Le numéro 2, on le liquide, alors on le met dehors, on le met avec perte et fracas, ce qui permet à tout le monde de se calmer et de voir un peu faire un exemple. Et
là, il fait un exemple avec Payet.
Asseoir l'autorité, voilà, merci, c'est le terme que je cherchais. Asseoir l'autorité.
Si on m'avait dit qu'un jour j'allais reprendre ou donner une idée de phrase à Thibault Leplat.
Non, c'est une modestie mal placée, non, pas du tout.
Non, c'est ça, asseoir son autorité.
Donc voilà, message de rigueur envoyé à tous les autres, envoyé au vestiaire, en quelque sorte.
Jusqu'à combien de temps? Pendant combien de temps?
Alors là, le discours officiel, c'est oui, mais vous savez, il y a beaucoup de matchs, donc les choses vont changer, ça va tourner, etc., etc. Ce qui est vrai en plus.
Oui, ce qui est vrai.
Il y a beaucoup de matchs.
Même si.
Si on a fait le partir, c'est Mandanda. Hein.
Après ce son d'hier.
Et alors après, le petit détail et le petit débat dans le débat, c'est le brassard du capitaine. puisque rappelons quand même que Tudor a fait de Payet son capitaine pour ensuite ne pas le faire jouer, ce qui peut paraître effectivement incohérent. Et il se trouve que Payet, vous avez peut-être remarqué ça, quand il rentre en jeu, il veut pas récupérer le brassard.
Ouais, il le laisse à Rongier.
Voilà. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'en gros, c'est un genre signe d'agacement et allez vous faire foutre si vous voulez pas me mettre titulaire ?
Non, moi j'en veux pas. Je trouve franchement que Payet en termes de comportement,
sa classe, moi.
Je trouve qu'en termes de comportement,
voilà, a priori c'est plutôt l'autre option, c'est plutôt de dire écoutez,
plutôt classe,
je le reprendrai quand je serai titulaire.
Ouais.
Voilà, je le mérite pas.
Ça veut dire aussi que j'ai pas besoin d'avoir de brassard aussi. Ça peut aussi vouloir dire ça.
Ah, et puis surtout pour 10 minutes, il est rentré quoi ? 10 minutes hier, 15 minutes. T'as commencé avec le brassard, garde le brassard. Moi, je suis remplaçant. Moi, je trouve sincèrement, je pensais que Payet allait poser beaucoup plus de problèmes que ça. À partir du moment où il a fait, je dis pas que je l'aurais légitimé, mais il a quand même fait une énorme saison de l'année dernière.
Ah oui.
Il les a ramenés en Ligue des Champions. Il y a un nouveau coach qui arrive. Il y a un coach
même
qui
s'il a raté à moitié la fin.
Souviens-toi comment était Payet avant l'arrivée de Sampaoli. Pareil, il était à la cave. On pensait qu'il allait terminer sa saison, terminer sa carrière.
Avec Thauvin, notamment les histoires. Et là, de voir qu'il y a un coach qui arrive, le mettre deux fois sur le banc, et en plus d'être sur le banc, il a quand même été.
Après l'avoir fait jouer en pré-saison.
Oui, Igor Tudor là, lui a quand même préféré Alexis Sanchez qui avait deux entraînements dans les jambes en sortie de banc parce que c'était le premier choix. Et derrière, il a mis Payet. Donc, si t'es à la place de Payet, tu aurais pu mal réagir. Et je trouve qu'il réagit plutôt bien. Après, ça c'est plus publiquement. Après, on sait pas. En tout cas, moi, j'ai pas d'infos à l'intérieur du groupe, mais j'en ai pas l'impression.
Attention, alerte, Diony. On me signale que Diony avait marqué avec l'étoile rouge de Belgrade l'année dernière quand il était en prêt.
Ah.
3 buts.
Tu vois, on l'avait perdu de vue.
Voilà. Donc, les 1 an, c'était en Ligue 1, en fait.
Après, il peut plus marquer.
C'est pas non plus une grosse série, quoi. 3 buts, c'est pas.
On revient avec l'étoile rouge dans le championnat serbe.
C'est pas non plus.
Voilà.
C'est pas Ronaldo, quoi.
Voilà. Alors. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, on ne sait pas. En tout cas, aujourd'hui, à Marseille, des tags ont été relevés à la commanderie ce matin au centre d'entraînement. Et tags qui souhaitaient le départ de Tudor et témoignaient leur soutien à Dimitri Payet et Bamba Dieng. Donc, ça veut dire que le débat autour de Tudor est encore là. D'ailleurs,
il n'est pas fini. Hein.
D'ailleurs, j'extrapole un peu. Enfin, on a quand même des supporters, je trouve, très vindicatif dès le début de saison. À 3, on demande déjà à ce que Irles soit viré. À Marseille, on siffle Tudor avant le premier match.
Après, c'est deux cas très différents quand même.
D'accord, en fait, n'empêche que.
Dans les deux cas, l'entraîneur est visé pour ses méthodes.
Il y a quand même une impatience qui s'installe quand même de plus en plus tôt.
Ouais, aujourd'hui, le supporter est devenu.
Théorie de Jérôme Thomas, avant, on ne voyait pas forcément les matchs amicaux.
Oui, aussi.
Mais
il a raison. Et le supporter est devenu impatient, est devenu exigeant, regarde les matchs de plus en plus, ont des analyses parfois pertinentes, parfois non, et ils ont aussi des échos par rapport à ce qui se passe dans le groupe, parce que Bruno Herles, apparemment, cet été, ça s'est très très mal passé, il y a des joueurs qui ont voulu faire un putsch au coach avec la direction. La même chose pour Igor Tudor, je viens de dire il y a deux minutes que c'est deux situations très différentes, mais finalement il y a quelques points communs, quand il n'y a pas le jeu. Quand il y a des problèmes en interne, quand il y a une incompréhension aussi sur certains départs, parce qu'il y a eu le départ de Sampaoli où il y a certains supporters qui sont nostalgiques, et surtout quand on voit que dans le jeu c'est pas extraordinaire depuis qu'est arrivé Igor Tudor. Et de l'autre côté, la même chose pour Bruno Herles. J'ai cru comprendre quand on regardait le match contre Toulouse notamment, qu'au bout de 2-3 minutes ça criait Laurent Batles dans les tribunes. Donc là aussi, nostalgie du coach Laurent Batles qui faisait bien jouer 3, qui a été viré. On avait parlé d'incompréhension à l'époque. Donc voilà, ça fait un tout et les supporters sont mécontents.
Si on veut généraliser un peu en essayant d'y voir peut-être un symptôme de trucs plus profonds, on peut peut-être se demander, comme on s'était demandé un peu ce que c'était que les mecs qui balançaient des bouteilles d'eau, et moi j'avais à l'époque évoqué la théorie du troll, c'est-à-dire le troll qui est sur les réseaux, qui s'est transporté dans les tribunes. Je pense qu'on peut aller plus loin dans l'analogie en disant que maintenant on est confronté non plus à des foules, non plus à des masses, mais on est confronté à des meutes. C'est-à-dire des groupes plus réduits qui désignent une cible et qui s'attaquent à cette cible pendant un temps réduit. Alors tantôt ça peut être un entraîneur, ça peut être un journaliste, ça peut être un président, ça peut être un joueur, tantôt pour des raisons politiques, tantôt pour des raisons purement d'instrumentalisation politique. Certains dirigeants le font assez ouvertement. Et donc t'as comme ça régulièrement des attaques, des proies qui sont désignées et on se jette sur eux. Donc là c'était Irles. Voilà, c'est la société dans laquelle on vit, la société des réseaux. Effectivement, on a beaucoup d'images, on a accès à beaucoup de choses. Et donc, plus on a accès à des choses, moins on est satisfait, c'est le paradoxe, et plus on en demande.
Après,
et moins on a de patience.
Ça date pas d'aujourd'hui, tout ça. Mais après,
non, ce que je veux dire, c'est que la spécificité d'aujourd'hui, c'est la véhémence, en fait. C'est le fait de dire que ce soit aussi loin, aussi fort.
Là, c'était
aussi
méchant. Vite. Vous avez trouvé ça méchant sur Irles? Il y a Irles et.
C'est inhabituel de siffler après deux matchs.
Oui, c'est toi, c'est ça, le timing.
Bah oui.
C'est le timing.
Parce que t'as eu pareil sur Tudor. Sur Tudor,
c'est avant le problème.
Ah, oui, ça, je te rappelle l'affaire Vertu.
C'était très haut.
Oui. Non, mais je te parle du mécanisme. Le mécanisme est le même. C'est-à-dire que tu vas avoir un emballement pendant 24 heures, 48 heures sur un sujet. On va désigner.
Vertu, c'est retombé aussi vite que c'est monté.
Certes, tant mieux. J'ose dire tant mieux. Mais. Et juste derrière, il va y avoir un nouvel emballement sur un nouveau sujet où ça va être simplement une minorité de personnes,
moi, c'est
une poignée de personnes, mais qui transpose ça au stade. Et dans les stades, maintenant, on va s'arrêter sur la poignée de personnes qui vont crier. Voilà.
Permettez-moi, et j'aimerais que le 32-16 s'exprime aussi, si vous voulez donner votre avis supporter marseillais. Est-ce qu'aujourd'hui, sportivement, Payet, vu le contexte marseillais et vu l'équipe et vu la façon de jouer, est-ce qu'aujourd'hui Payet est incontournable dans l'équipe de départ de l'OM?
Non. Moi, je pense que la direction, je suis pas sûr que la direction que prend Igor Tudor dans le jeu, accompagné de Longoria, parce que Longoria nous a expliqué que c'était le football moderne et qu'il fallait aller dans ce sens-là. Moi, je vois, j'ai vu encore le match d'hier.
C'est Sampaoli qui l'a amené en Ligue des Champions.
Ouais, et j'ai vu le match d'hier. À partir du moment où tu bloques.
Il est football liquide de Thibaut Lopin, en fait, là, pendant l'été.
Ah, là, c'est du football rigide, hein,
maintenant. Ouais, on l'a mis au congélateur et hop,
ça a changé d'état. La matière a changé d'état, est devenue rigide. Fragile.
À partir du moment où tu bloques Klos et Tavares, il n'y a aucun jeu intérieur. Les milieux de terrain avec le ballon n'existent pas. Les joueurs comme Gerson ou Under à l'intérieur du jeu n'existent pas. Et donc,
peut-être que justement, moi je pense que Payet serait plus efficace que Under, par exemple.
Bah, bien sûr. Bah, parce que ça manque de créateurs. Parce que pour moi,
je sais pas.
Non! Je sais pas, parce que pour moi, il n'y a pas d'avis définitif là-dessus. Parce qu'il y a aussi la thèse comme quoi Galtier, c'est-à-dire pas Dimitri Payet ne court pas assez pour ce que veut Tudor, parce que c'est il y a beaucoup de pressing, parce que est-ce que si tu mets Milik plus Payet
on a changé, c'est Kevin qui a dit ça hier, je crois, on a changé de langage quand on est venu avec Tudor. Kevin Diaz a dit ça hier très justement, effectivement il parle une autre langue. On a changé de football, on a changé de manière de
mais y a pas est, que lui hein, on est aussi
plus,
hein.
On est évidemment plus dans le football liquide, et moi ma question, et je voulais revenir cette semaine mais pour en parler éventuellement ce soir, c'est que je me pose la question sur les orientations de Longoria, parce que ça va totalement à l'encontre de ce que lui prenait il y a encore deux ans, c'est-à-dire une identité de jeu.
Est-ce qu'il n'est pas dicté par une sorte de pragmatisme économique qui s'impose à lui? Tu vois ce que je veux dire?
Peut-être. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, je sais pas pourquoi. Je constate juste qu'il envoie des grands coups de barre dans un sens, puis un autre dans l'autre sens. Quand il discute, après, j'ai pu discuter avec Sampaoli, savoir un peu. Qu'est-ce qu'il en dit après? Lui, il considère, lui, il a rien contre Longoria. Il considère que Longoria fait son boulot, mais il est parfaitement conscient que l'effectif qu'il avait était insuffisant, mais que derrière, c'est un choix. Donc moi, après ça, c'est des informations moi que j'ai pu avoir, c'est que c'était un choix surtout imposé, puis qui finalement a filtré pas mal. C'est un choix imposé par Ribalta. C'est Ribalta qui veut italianiser.
C'est Ribalta qui est venu avec son coach. Mis les bâtons dans les roues
mais c'est une stratégie de directeur sportif. Tous les directeurs sportifs.
Mais après, le problème,
ils viennent avec leur coach, ils viennent avec leur team.
Ils veulent asseoir leur pouvoir.
Voilà. Et puis, le problème, c'est
que Longoria.
Simplement, il y a eu un changement de modèle. En passant de Sampaoli à Tudor, on est passé du jour à la nuit, on est passé du football liquide au football rigide. On voit bien là, cette fois-ci, c'est tout le contraire.
Qu'il nous parle de football moderne, Longoria.
Voilà.
Il nous dit c'est qu'on doit aller, parce que le football moderne demande.
Voilà. Ça, c'est l'idéologie.
Sauf que le football, ça peut aussi fonctionner.
Oui, ça peut fonctionner. Oui, pourquoi
pas. Sauf qu'il y a quand même. Le problème, c'est que si tu fais
un football sans milieu de terrain, sans jeu intérieur, j'ai quand même du mal à le voir à Manchester City ou dans d'autres équipes en Europe.
Si le lundi, tu fais un football ambitieux, un peu différent, un peu contre-culturel, un peu disruptif, faut parler comme les modernes, c'est-à-dire un peu différent, un peu à contre-courant, qui était le football de Sampaoli avec le football liquide, quoi, avec les joueurs qui changent de poste, etc. Un truc un peu exigeant, long à mettre en place. Tu fais ça et tu dis oui, c'est formidable, c'est l'identité de jeu, tu le soutiens. Et le mardi, tu dis ah bah non, finalement le football moderne, bah c'est des pistons, donc avec des Nuno Tavares, qui est sympa, qui court vite.
Non mais ils ont été bons.
Pour l'instant c'est
du jour au lendemain,
jour de match.
Nuno et Klos, c'est les deux meilleurs.
Je suis pas du tout d'accord. Alors là, je suis
Nuno Tavares.
là-dessus, non, non. Alors, il a marqué deux buts. C'est un joueur qui est intéressant parce qu'il a de
le problème. C'est, mais plus, c'est un joueur c'est plus terme, les trois de derrière.
En termes de qualité de football, en termes de QI, et en termes d'apport.
C'est un joueur fougueux.
C'est pas un joueur fougueux, c'est un joueur fouillis.
Oui, brouillon,
c'est un joueur brouillon, mais qui a perdu un nombre de ballons.
Bien sûr, mais qui peut t'apporter aussi.
C'est que je vais te dire ce que disait Cruyff. Dire ta meilleure équipe, ton équipe, elle est pas au niveau de ton meilleur joueur. C'est comme une chaîne. Hein, une équipe, c'est comme une chaîne, quand même, le maillon d'une chaîne. C'est-à-dire que ta chaîne, elle a beau être très forte, elle sera dure comme le plus petit maillon. Et le niveau de ton équipe, il est toujours au niveau de ton plus mauvais joueur. C'est ton mauvais joueur qui détermine le niveau moyen de ton équipe. Or là, pour moi, le plus mauvais joueur, c'est le joueur qui a le plus de limites techniquement, qui a beaucoup d'impact et qui pour l'instant y arrive. Mais bon, on va le voir sur la longueur. C'est effectivement Nuno Tavares. À mon avis, le meilleur, c'est Jonathan Clauss. Mais Nuno Tavares, il apporte quelque chose.
C'est Balerdi, là.
Oui, mais regarde, et le niveau de l'équipe, c'est le niveau de Balerdi et de Tavares. Et on a vraiment, et c'est Jonathan qui l'a dit l'autre soir, je suis assez d'accord avec lui là-dessus, c'est-à-dire que vraiment, ton équipe, elle n'est pas au niveau de Alexis Sanchez, de Dimitri Payet, de même de Milik.
Elle est au niveau de Nuno Tavares. Le meilleur, c'est Nuno Tavares en ce
non,
moment,
pire,
et c'est pas normal.
Non. Pour moi, c'est pas le meilleur.
Ah, c'est pas le meilleur.
À mon avis, on s'est trompé sur Nuno Tavares. Ouais. J'ai revu le match.
Sur les deux derniers matchs, quand même, Clauss et Tavares sont dans les
bons coups. Le football solide, là, ça peut marcher, mais il ne faut pas que les joueurs moyens.
Rigide, c'est la même chose.
Rigide. Parce que
le solide, il peut être souple. Le rigide, il n'est pas souple.
Et d'ailleurs, je sais que coach Courbis partage globalement cette analyse. Les trois défenseurs centraux, là.
Mais il n'y a aucune relance.
Ah, mais ça ne va pas.
Mais il n'y a aucune relance.
Et dans GPS à Jonathan Bacardi qui t'explique que c'est mieux que l'an dernier.
Gilbert, le football moderne, je suis désolé, c'est ce qu'a dit Pablo Longoria.
Mais ça, le football moderne,
c'est ça.
C'est ce que Longoria a dit. C'est par là qu'il faut aller.
C'est Chapman, le WM dans les années 20.
Non, mais il a dit c'est par là qu'il faut aller. Donc moi, j'écoute Pablo Longoria parce que Longoria, apparemment.
Mais là, tu parles de qualité des joueurs.
Eh bien, je t'en parle. C'est que quand tu as, au-delà de la qualité des joueurs, que tu as un coach qui ne demande pas énormément de qualité de relance dans les trois derrière Rongier et Guendouzi avec le ballon, on va leur demander de presser ou de se projeter, mais on leur demande aucun jeu intérieur. Que Gerson, vous avez vu les deux premiers matchs de Gerson, alors que Gerson sur la préparation c'était l'un des meilleurs joueurs, et pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Gerson, il est super, mais vraiment vraiment mal utilisé de la part de Tudor. Et moi, pour répondre à ta question sur Payet tout à l'heure, c'est que pour moi il est inconcevable qu'un coach Olympique de Marseille aujourd'hui se passe dans son 11 de départ de Gerson, Payet, Alexis Sanchez. Ces trois joueurs-là, là. Si ces trois joueurs-là ne sont pas, ne démarrent pas dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, avec cet effectif-là, je ne comprendrai pas. Maintenant, si Tudor vient nous expliquer que Payet, il ne va pas dans la direction de ce qu'il veut aller, on va voir jusqu'où il va aller et jusqu'où il va emmener cette équipe de l'Olympique de Marseille. Mais j'ai des gros doutes. Se séparer de Dimitri Payet dans la création, vu l'effectif de l'Olympique de Marseille, pourquoi pas? On va donner sa chance au produit. Parce que, de toute façon, quand on critique Tudor, on dit que, en termes de timing, faut lui laisser le temps. On va lui laisser le temps. Moi, j'ai détesté le match d'hier soir. Mais bon, on va pas critiquer Tudor parce qu'il est là depuis un mois. Donc, mais hier, normalement, Brest doit gagner 3-1 ce match-là. Il doit gagner 3-1 ce match-là, Brest.
Un exemple, quel est le problème, par exemple, de Tudor? Quand tu fais une grosse préparation à l'italienne, comme ça, préparation dissociée où les mecs courent beaucoup pendant deux semaines, ton problème, c'est quoi? C'est que les deux semaines-là, ces types-là, ils ne peuvent pas intérioriser ton modèle de jeu. Tu peux pas leur apprendre quelque chose, qu'ils sont crevés. Ils sont crevés. Donc, tu peux pas, tous les entraîneurs vont te le dire, qui font de la préparation, qui font, comme t'appelles le football moderne. Alors, c'est le football, moderne, si tu veux, mais le football moderne.
Football de course. Oui, c'est ce qui parle.
Il n'y a pas que ça. Il y a les modèles tactiques. C'est pour ça que
on n'a jamais gagné une élection avec un test Cooper.
D'où la périodisation tactique
et tous ces modèles. Il y a une équipe qui court le moins.
Et tous ces modèles de préparation où tu intègres la préparation physique pour pouvoir apprendre en même temps. Là, le problème, c'est que les types font que courir, ils peuvent pas apprendre. Et du coup, ils sont crevés. Et ils arrivent, ils s'énervent. Donc, ils s'énervent contre leur entraîneur, ils s'énervent contre leurs joueurs. Et t'arrives au premier match de la saison, on dit oui, il faut attendre. Mais il faut attendre quand? Le mois de novembre. Mais si t'as déjà perdu 15 points, c'est terminé, t'es en dehors. Et c'est le problème de ces préparations-là. Et quand on parle de football moderne, j'ai envie de rigoler. Je dis non, ça c'est le football.
C'est Longoria, Thibault. C'est Longoria qui le dit.
C'était le sujet de mon avis de mardi ou mercredi. Mais moi, je vais te le
développer à ce moment-là.
Développera à ce moment-là. C'est ça. C'est où va Longoria
sur ce choix-là?
Allez, dans quelques instants, on est de retour avec peut-être des réactions sur Dimitri Payet. Et Walid, lui, veut parler de Milik. Tiens, puis on me demande sur Direct Studio quand est-ce que reviennent les Podcast Club. Bon, là, on est mi-août, on est en train de s'organiser pour le retour des Podcast Club d'ici quelques temps. Ça va aller vite, ne vous en faites pas. Les Podcast Club, pour l'instant, sont toujours en vacances, mais ils vont revenir. Allez, à tout de suite dans l'After. On est jusqu'à minuit avec l'OM au programme et le Mercato, notamment le Mercato nantais également à suivre. Et puis, on parlera également des autres clubs de Ligue 1, parce qu'il y en a qui nous ont plu, d'autres nous ont moins plu. Moi, par exemple, je suis inquiet pour Nice. Non, c'est déjà, je vous le dis. On en reparlera tout à l'heure. À tout de suite dans l'after.
RMC. L'afterfoot. Gilbert Bribois.
Thibault Leplat et là, Walid Acherchour également, l'OM au programme. Avant de parler de Billy, on va conclure le dossier Payet avec Mohamed au 32-16. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir messieurs.
Salut. Bonsoir, Mohamed. Écoutez l'after, tu voulais réagir à ce que disait Walid.
Alors, pas tout à fait. Je voulais surtout intervenir pour sur l'avis tranché de Walid concernant Arkadiusz Milik.
Ah et d'accord, mais puisque tu es là, allons-y sur Payet aussi.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors concernant Dimitri Payet, alors je vais, c'est pas une confidence, mais moi je fais partie des peut-être des supporters qui l'aiment autant qu'ils le détestent. Ce type de, il a par rapport à son passif à l'Olympique de Marseille. Il a à plusieurs reprises par le passé, et notamment sur la période Villas-Boas, il a fait en sorte d'aller à l'encontre de ses choix. Il y a eu l'épisode de Garcia également, et à partir du moment où il n'est plus, bah tout à l'heure vous parliez, la preuve que je vous écoute, vous parliez du souci, enfin, ou du pseudo conflit entre Neymar et Mbappé. Là, à partir du moment où Payet il est plus au centre du projet de Marseille, ben forcément, il a un ego, il est capitaine et il le manifeste. J'ai entendu Walid tout à l'heure indiquer que jusqu'à preuve du contraire, publiquement parlant, il laissait rien transparaître. Mais pour le coup, en interne, il n'est pas du genre à garder les choses pour lui. Il y a un passif, ça fait longtemps qu'il est à l'OM. Quand il n'est pas content,
donc tu veux dire que bientôt ça va exploser alors ?
Incontestablement. Moi, je pense que vous avez parlé de asseoir son autorité. C'est concernant Igor Tudor. Je pense que c'est le cas, qu'il est maître à bord. Je fais partie des supporters qui ont une énorme confiance en notre président. Je vous rappelle encore qu'il y a, si on reprend l'épisode de Jacques-Henri Hérault, etc., le nombre de transferts, enfin, il se les coltine encore aujourd'hui. Et c'est une position délicate. Il a fait le choix de l'avenir. Je crois en son projet, je crois en ses idées, notamment son projet sportif. Il a remis le club sur le devant de la scène, notamment à l'échelle nationale. Et voilà, je pense que Payet, ça sera un problème. En tout cas, s'il se met pas au diapason, ça sera un problème. Et s'il faut s'en passer, il faut laisser la chance. C'est Walid que tu l'as mentionné tout à l'heure, hein, laisser la chance au produit, hein, concernant l'entraîneur.
De toute façon, oui, il y a que ça à faire. Hein. Moi, je suis persuadé que mettre Payet sur le banc cette saison, ce sera très très compliqué. Maintenant, s'il arrive à s'émanciper de tout ça, à avoir des résultats, à avoir une équipe qui progresse, pourquoi pas, on le dira. Tout à l'heure, je le disais, moi, avoir un mec, avoir Gerson dans cette position très très mal utilisée et un Payet sur le banc, dans la création.
Quand on meilleur joueur, c'est une note à voir, c'est un problème.
J'ai beaucoup de mal, moi. J'ai beaucoup de mal avec cette perception, mais comme tu l'as dit, on jugera sur pièce et on lui laissera le temps. Hein.
Alors, Mohamed, reste avec nous pour parler de Milik. Ouais. C'est tout de suite.
Walid. Oui. Milik, ouais, avec plaisir.
Reste là.
J'ai beaucoup de choses à dire.
Très bien. Jingle, Walid.
Moi, quand je m'habille, quand je sortais, etc., je détestais mettre de l'argent dans des jeans. Je préférais mettre un beau t-shirt, une belle chemise, de l'argent dans des belles chaussures.
J'aime bien le quand je sortais.
Ouais, c'est vrai qu'on sort plus maintenant.
Il sort pour l'after, il vient en survêt, regarde.
Non, c'est pas un survêt, c'est un petit pantalon habillé.
Très bien. Milik, tu voulais en parler, pourquoi ?
Je voulais parler de Milik parce que pour moi, on est vraiment, vraiment loin du compte avec le Polonais, de par ses performances. Et hier, c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai encore été vraiment déçu de sa prestation, sa pression globale et sur le terrain et surtout aussi sur le fait qu'il était à deux doigts de prendre un deuxième jaune et de laisser ses partenaires à 10 contre 11. Et je voulais revenir globalement sur ce cas parce que l'année dernière, il y avait beaucoup de débats, Sampaoli, Milik. On rappelle qu'il y avait une frange des supporters qui demandaient le licenciement de Sampaoli parce que le Polonais ne jouait pas et on l'appelait le grand attaquant, l'attaquant qui était dans le chapeau, les gros chapeaux européens, un des meilleurs attaquants européens. Et depuis un an.
Il avait été chapeau 1 non plus.
Ouais, non, pas chapeau 1, mais beaucoup en parlaient comme d'une référence, entre guillemets, chapeau 2, chapeau 3. Mais en tout cas, il avait rien à faire sur le banc de l'Olympique de Marseille. Et on comprenait pas, les choix de Sampaoli. Et moi, l'année dernière, je critiquais déjà ce Milik. J'ai pas attendu un début de saison très très compliqué et un match contre Brest pour le dire. Mais je trouve que dans les médias, globalement, Milik, personne n'en parle. Il y a des numéros 9 à l'Olympique de Marseille qui
sont pas... Les débats Payet ou Alexis Sanchez cachent les
vraies performances de Milik.
Non mais on en parle comme d'un très bon attaquant de Ligue 1.
C'est un peu comme Jean-Michel Aulas. On dit oui, c'était un grand président.
Non mais Longoria.
À chaque fois qu'on parle de Milik, on dit. Je te laisse terminer. Excuse-moi. Oui, juste. Effectivement, quand on parle de Milik, il y a toujours. C'est un grand attaquant. Hein, ouais. Mais.
Non, c'est un grand attaquant. Longoria l'a défendu l'année dernière. Hein. On se rappelle quand Jérôme Roten sans flamme était parti à Marseille en disant ses qualités, etc., son standing. On rappelle le prix de Milik. Hein. Il coûte pas mal d'argent à l'année pour l'Olympique de Marseille. Et je suis désolé, mais quand je regarde les matchs importants, quand je vois ses buts, quand on enlève... les pénaltys, quand on enlève les blessures, quand on regarde les buts contre qui il a marqué, quand on regarde ses performances dans le jeu, dans le contenu, son affinité avec ses partenaires, je suis très très déçu et on est très très loin du compte. Quand on le met dans la même catégorie qu'un Ben Yedder, que d'autres numéro 9 en Ligue 1, Marseille n'a pas la possibilité d'avoir un numéro 9 autosuffisant qui lui fait gagner des matchs. Et moi je suis désolé, mais quand on voit les numéros 9 qui sont passés à l'Olympique de Marseille et ce qu'ils ont pris dans la gueule, alors je suis pas là pour demander un déferlement autour de Milik, mais je trouve qu'en termes de cohérence,
on est trop indulgent avec lui.
Mais l'indulgence
qui dans son dernier but,
but en Ligue 1, c'est en mars dernier contre Nice, c'était un penalty. Le dernier but dans le jeu, c'était contre Brest. Mais regardez sincèrement les gros matchs contre le PSG, contre Lyon, quand sa rentrée contre Feyenoord, quand Payet se blesse, où on attend un buteur. Mais les occasions qu'il loupe, ses contrôles ratés. Moi, je suis désolé, j'ai pas envie de faire un Milik bashing, mais j'en peux plus. Et je trouve qu'on le dit pas assez. Quand je vois qu'un Dieng va sûrement partir pour 12 millions d'euros ou 10 millions d'euros, et que Milik va continuer à faire ses performances là, jusqu'à quand en fait? Jusqu'à quand on ne va rien dire? Jusqu'à quand ce sera même pas un débat? On doit attendre beaucoup mieux d'un joueur qui est considéré, pas pour tout le monde, hein, parce que je pense qu'il y en a qui ont compris, comme un très bon attaquant européen.
Alors Thibaut, ton avis, ensuite Mohamed prendra la parole.
Bah, je suis d'accord avec toi, Walid, effectivement, mais on l'a toujours dit, même l'année dernière, ouais, on en a parlé beaucoup.
On n'a pas attendu,
on n'a pas arrêté de dire ça. Et là, on voit les insuffisances de Milik. Peut-être que la blessure a accentué des fragilités qu'il avait déjà.
Ouais. Bah, moi, je dis depuis ces deux blessures, au Napoli et à l'Ajax notamment, c'est plus le même joueur.
Mais, ouais, donc, maintenant, on a quand même une équipe de l'Olympique de Marseille. On a énormément de points d'interrogation sur toutes les lignes, à tous les postes, des joueurs qui disparaissent. Souvenez-vous du début de saison de l'an dernier, ou même de l'arrivée de Sampaoli.
Sans lui, parce qu'il était blessé.
Le contexte sans lui, l'équipe était. Il y avait un vent d'optimisme. Mmh. Les gens étaient toujours un peu circonspects.
Mais Thibaut, t'as un match signature de Milik en Ligue 1.
Tu démarres la saison, t'as que des doutes. Et t'en as plus que quand t'avais terminé. Alors que t'avais des certitudes en finissant la saison. Donc c'est quand même un peu inquiétant. Moi, je suis très inquiet pour la Ligue des Champions, pour l'Olympique de Marseille, parce que quand on a une équipe qui est dans un tel état de doute, qui n'a pas de certitude, qui va s'avancer vers une compétition qui est en fait la Ligue des Champions. Le rêve de la Ligue des Champions à Marseille est en train presque d'empoisonner le quotidien marseillais, parce que c'est une équipe qui a pas forcément peut-être les moyens de son ambition et qui du coup se retrouve à essayer de bricoler, de trouver absolument des solutions, et on se retrouve avec un entraîneur qui a aucune expérience en Ligue des Champions, qui arrive pour préparer une équipe qui elle-même on a perdu en chemin Payet, on est en train de perdre Gerson, Milik a disparu, le meilleur joueur c'est Nuno Tavares, bon c'est dire le niveau général.
Moi, Thibaut, moi je dis sur Milik.
Regarde le nombre d'erreurs de transmission, les erreurs de ballons perdus. Et quand tu regardes le niveau de jeu, et quand tu regardes le match de Reims, c'était simple. C'était comme la cinquième de Beethoven. C'était tac, 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 boum. C'était ça, le jeu de Tudor. C'est une passe courte, passe courte, passe courte, grand ballon devant. Passe courte, passe courte, passe courte, grand ballon devant. Et c'était que ça. Et que des ballons perdus. C'est l'équipe qui envoie le plus de ballons dans le camp adverse. Tu regardes les statistiques du championnat. Qui joue le plus de duels aériens. Évidemment, parce qu'il envoie sans arrêt des ballons en longueur. Et dans ce cadre-là, moi, au début de la saison, je me suis dit, bon, peut-être c'est bien pour Milik.
Non, mais non, parce qu'en fait, le problème,
Milik,
c'est
qu'il a gagné un duel de la tête. Il en a joué 8, il en a gagné un.
Sa qualité de pressing n'est pas bonne. Ces duels hier, Diarry, le Marocain de Brest, il s'est régalé sur tous les, non mais sur tous les duels aériens. Son jeu,
alors que c'est le jeu de prenant,
non, son jeu de remise, je suis désolé, mais il est très très décevant. Même sa finition, sa capacité à être beaucoup plus vif que les défenseurs dans la surface de réparation, j'ai pas envie de dresser un tableau noir, mais c'est quand même très très décevant. Surtout.
C'était fait quoi. Brest, peut-être que ça améliorera, mais
après, et moi, ce qui me dérange, et je te pose la question à Thibaut. Et à Gilbert, mais est-ce que vous avez, ça fait quand même un an et demi, deux ans qu'il est arrivé, est-ce que vous avez un match signature de Milik en Ligue 1 où tu te dis là il a fait gagner l'Olympique de Marseille dans un gros match, là c'est vraiment voilà, il prend 400-500 cas par mois, il les mérite, c'est le joueur différent de l'Olympique de Marseille, c'est le joueur, le buteur. Non, j'ai pas, tu regardes les buts, triplé contre Angers, but contre Brest, but contre Metz, très beau but contre Metz qui met l'année dernière où il rentre, etc. Mais une titularisation où tu dis purée, waouh, ah ouais d'accord, ah ok, ah d'accord, ok, ok.
On va continuer le débat avec Mohamed et Florian qui nous a appelé, les gars. Milik au programme toujours.
Et là ça va être quoi l'excuse?
Et l'OM, c'est tout de suite dans l'after, bougez pas.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Thibaut Leplat est là, Walid Acherchou est là, Milik en débat dans l'after ce soir avec Mohamed toujours présent au 32-16. Avant d'accueillir Florian, Mohamed, d'accord avec Walid ou pas?
Absolument pas. Mais alors absolument pas, mais vu que ces propos ils ont en quelque sorte été corroborés ou du moins confirmés par Thibaut, on va dire que je suis en désaccord avec vous deux. Mais comme le dit bien coach Courbis, c'est pas parce qu'on est en désaccord que j'ai forcément raison ou que vous ayez forcément raison. Là en l'occurrence, vous avez parlé de, enfin Walid, tu l'as précisé, t'as parlé d'attaquants de niveau européen. Mais je te le confirme, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, c'est un attaquant de classe internationale, ou en l'occurrence de classe européenne, qui, là où il est passé, il a toujours chiffré, il a toujours staté. Il est tributaire, au même titre que des attaquants dans son profil, hein, il est tributaire d'un collectif autour de lui. Quand on sait que la saison dernière, les pseudo anti-Sampa, je vais pas dire que j'en ai fait partie, mais quand tu as un entraîneur qui te dit et qui t'affirme même et qui l'assume, qu'il préfère jouer, s'il pouvait jouer avec 11 milieux de terrain, il le ferait. Forcément, Milik, on le met pas dans les meilleures dispositions. Il y a eu des matchs, oui, tu parles de la Ligue 1, il a eu ses matchs références, Angers, tu as parlé de Nice, il y a eu le match retour contre le PSG, il n'était pas présent. En Ligue Europa, la campagne européenne, il était présent, il a marqué, je crois, 4 buts en 5 matchs.
Il marque des buts contre Galatasaray à 4-0.
Peu importe,
il met un pénalty contre la Lazio.
On attend d'un 9. Walid, moi,
tu regardes la première heure en Turquie, elle est catastrophique.
Si je peux me permettre, Walid, juste laisse-moi terminer.
Bien sûr.
Si je dois remonter quelques années en arrière, et pas plus tard qu'il y a 3 ou 4 ans, on fait une campagne de européenne, Ligue des Champions, Ligue Europa, avec Kostas Mitroglou et Monsieur Valère Germain. Aujourd'hui, j'ai Arkadiusz Milik, Arek Milik et Alexis Sanchez. Je fais confiance à Pablo. Milik, je l'ai vu briller, moi, à Naples, et je l'ai vu briller également à l'Ajax. Il ne perd pas son football.
À l'Ajax, c'était il y a 6 ans, quand même.
Si, ouais, mais peu importe.
Mais Mohamed, t'as regardé Naples, alors.
Il a fait 2 ans et demi. On ne vit pas sur le passé. Il n'a que 28 ans. Certes, il a eu 2 grosses blessures qui ont été importantes. Comme l'a signalé Thibaut, peut-être qu'effectivement, ça a une incidence sur son jeu aujourd'hui. Mais encore une fois, maintenant, mettez-le dans des bonnes conditions. Mettez-le dans des bonnes conditions. Il doit être servi. C'est un attaquant, c'est un joueur de surface. C'est pas un joueur où on va lui demander de prendre la profondeur. Il a ni le profil de Bakambu, ni le profil de Bamba Dieng, ni le profil d'Alexis. Servir. À partir du moment où il a des situations ou des occasions, on le juge sur pièce. Voilà.
L'occasion qu'il a à Brest, qui était typiquement une action d'attaquant, tu vois que le ballon est à mi-hauteur, en première mi-temps, est à mi-hauteur, il arrive au niveau de la poitrine, n'importe quel attaquant, soit fait une tête plongeante, soit arrive avec la poitrine. Lui, il trébuche, il arrive même pas à se plier.
Pour te répondre, Mohamed.
C'est l'occasion de Guendouzi, dont lui, il est à l'origine, c'est une passe décisive, ça, on n'en parle pas, par contre.
Non, mais Mohamed.
On en parle aussi, mais tu parles des gestes d'attaquant.
On met le doigt, parce qu'en fait, vous avez dit, que Walid, en tout cas, t'as précisé que ouais, c'est contenu du déchet, etc. Mais on a l'impression, parfois, de ne pas regarder les mêmes matchs.
Il a le droit de faire des belles remises, dans un match. Il a le droit
mais comme tout attaquant, faire du 100%, même au très haut niveau, le gratin européen du déchet, il peut en avoir.
Mohamed, on est loin du compte. Mohamed, on est loin du compte. Il va falloir arrêter. Tu peux le défendre, il n'y a aucun souci. Je te dis qu'on est loin du compte.
Est-ce que je peux te répondre? On est au même stade.
Est-ce que je peux te répondre?
Je t'écoute, mais on ne faut pas faire un procès d'intention à un joueur qui démarre et qui a souffert la saison dernière, qui a été, je vous les donne hein, ces stats, hein, le nombre de titularisations, le nombre de buts, il a fini meilleur buteur du club.
Contre qui? Contre Chauvigny-Larue? Contre qui il a marqué? Contre Brest? Contre Angers? Contre qui?
Là, t'es dur, Walid, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi.
Non, mais attendez, excuse-moi, Mohamed, juste pour répondre. Tu parlais de Naples. J'espère que t'as bien vu les matchs de Naples. J'espère que t'as bien vu les matchs importants de Naples. J'espère que t'as vu Sarri ou Gattuso préférer Dries Mertens à Arkadiusz Milik quand c'était important, parce qu'il préférait jouer avec ce type de neuf qu'avec celui de Arkadiusz Milik. Donc pour un très très bon attaquant européen, à un moment donné, quand t'es sur le banc à Naples, quand ça compte, moi je suis désolé, mais c'est aussi à prendre en compte dans l'analyse. La deuxième des choses sur Marseille, très rapidement, si t'es satisfait de ce que fait Milik depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, quand ça compte, quand on a besoin, quand il rentre contre Feyenoord en demi-finale de Europa Conference League, quand sur la première heure de jeu contre Galatasaray il est introuvable, quand sur les matchs contre le Paris Saint-Germain à l'aller, notamment le match contre Lyon où il y a 3-0 et il y a deux immenses occasions d'Arkadiusz Milik en première mi-temps, et à ce moment-là tu te chies dessus sur toute la fin de saison parce que Milik n'a pas mis les pions. Si pour toi le très grand attaquant européen ça te suffit sur ce genre de rencontre là où il est venu, où on nous a vendu, où on nous a expliqué Milik c'est un tueur devant le but, si t'es satisfait, eh ben comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, on pourra pas se mettre d'accord là-dessus. Mais moi je suis désolé, Arkadiusz Milik dans la palette globale, dans ce que doit donner un neuf moderne, je suis déçu, et pour moi, c'est mon avis, on est très très loin du compte. Peut-être qu'il va se réveiller. Tu dis qu'il doit être mis dans les meilleures conditions, mais je sais pas les gars, vous m'avez expliqué, vous m'avez dit que c'était un très bon attaquant, mais un très bon attaquant dans les gros matchs, à un moment donné il peut être autosuffisant, à un moment donné il peut claquer une tête, une frappe de loin, après, quelque chose.
Après Walid
Thibaut et ensuite ouais. Florian au 32.
Non mais expliquez-moi explique-moi.
Je suis d'accord avec toi sur le constat. Après c'est vrai que bon, lui reprocher d'avoir marqué contre Angers, c'est un peu injuste.
J'ai pas dit ça, je dis juste qu'à un moment donné, mais regardez
laisse-moi juste terminer là-dessus. Donc là-dessus je pense que t'es un peu dur là-dessus, mais bon, c'est de bonne guerre. Après, je trouve que t'as assez raison sur les attentes à l'égard de Milik. Moi, ce qui me fait quand même rire, c'est qu'on continue à dire que c'est la faute de Sampaoli, alors que le type est parti depuis un mois et demi. Il l'a fait quand même jouer. Il a été pas titulaire à tous les matchs, mais il l'a fait quand même jouer. Pendant toute la saison, il a été au cœur de tous les débats, Milik. Et on continue à dire, alors que Sampaoli est en vacances à Rio, que c'est encore de sa faute. Alors bon, il y a un moment.
Il peut être
responsable de plein de choses, mais il peut pas être responsable du futur ni du présent.
Prenons l'avis de Florian maintenant, en remerciant Mohamed au 32-16.
Mohamed, pour ce débat en tout cas, merci Mohamed.
Florian, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde. Déjà, pour commencer, je suis très content d'arriver en fait sur l'after. C'est la première fois.
Merci. Bienvenue.
Voilà, et que j'écoute depuis tout le début.
Merci de ta fidélité.
Normal. Sur le débat, écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec Walid. À un moment donné, on a un attaquant soi-disant de classe internationale.
Moi, marqué contre
Angers, Brest, sans leur manquer de respect, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas spécialement. L'année dernière, on a discuté à la fois de Sampaoli, il a quand même mis titulaire sur certains matchs. On n'a jamais vu la différence. En Ligue Conférence, pareil, il a marqué sur un péno et une frappe. Surtout le reste de la compétition, on ne l'a pas vu non plus. Voilà, et cette année, ça va être la même chose. Alors, il a été blessé, il a été blessé dans son ego, il a été blessé physiquement, mais on ne retrouvera jamais le Milik d'il y a quelques années en arrière.
Non, mais on nous parle du Milik de l'Ajax, il a eu deux blessures entre-temps.
Allons plus loin. Florian, tu voudrais quand même recruter un neuf?
Mais à la rigueur, non, on a des joueurs capables de cette année. On a quand même des joueurs. On a Bamba Dieng qui est quand même prometteur. Le gars, tu le fais jouer le premier match amical, il t'en plante trois. Alors certes, c'est que Marignane mais il te manque quand même 3.
Ou tu dis, ou alors on fait jouer Bakambu, tu dis quoi?
Non, pas Bakambu. Bakambu, c'est le même problème.
Bakambu, ça va être le même souci.
Alex Sanchez en 9 ou Luis Suarez avec Gerson et Payet qui tournent autour, c'est des solutions plus mobiles, plus habiles techniquement, plus dans le ton. Moi, Milik, il va pas faire ça de façon éternellement comme ça.
Alex Sanchez en faux 9 ou même.
Il a déjà joué en 9 à Arsenal avec l'Inter.
C'était pas du tout le même modèle de jeu. C'est-à-dire que là, t'as un gros trou au milieu, le ballon arrive jamais. Donc, soit tu mets des têtes. Et c'est pour ça qu'à la limite,
Milik. C'est pour ça qu'un mec immobile sur
ce style de jeu-là, à la limite, Milik était peut-être l'attaquant idoine pour faire ça, justement. Les ballons qui arrivent dans la surface, des centres de deux côtés. Moi, au départ, je me dis, c'est peut-être plus favorable.
Mais le problème, c'est qu'ils vont laisser le ballon, Thibaut. Ils vont laisser le ballon. Voilà, ils demandent un gros pressing. Milik, je suis désolé, vous l'avez vu, pressé. Je sais pas, peut-être que je suis très dur.
Florian, un truc à rajouter?
Oui, l'année dernière, on parlait de système de jeu par rapport à Milik. Il était peut-être pas adapté, on avait peut-être pas les pistons qu'il fallait, on avait peut-être pas les passeurs. Cette année, on a quand même deux latéraux qui sont globalement très bons. On l'a quasiment pas vu dans la surface de réparation. Il se crée pas une occasion tout seul. En fait.
Pour un joueur classe mondiale, il faut quand même beaucoup de contexte pour le mettre dans les meilleures conditions, j'ai l'impression. Parce que c'est vraiment un joueur mondial, un world class, mais j'ai l'impression quand même qu'il faut beaucoup de choses.
Florian, merci beaucoup.
Salut,
et rappelle-nous quand tu veux, t'es le bienvenu dans l'after. Voilà. Si vous êtes des fidèles comme Florian, n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert, c'est très facile. Si vous voulez partager vos avis dans l'after tous les jours, c'est simple. C'est de 20h à minuit en direct, parce qu'on est toujours en direct, nous. Voilà. Oui, c'est important, ça, de le préciser. Parfois, les gens peuvent se dire, tiens, ils ont enregistré cet après-midi. Non, non, l'after, c'est toujours en direct. Dans quelques instants, les autres clubs de Ligue 1, qui vous a plu, qui vous inquiète? Après deux journées, on peut commencer à en parler. Et puis encore quelques infos mercato, notamment concernant le FC Nantes. À tout de suite, madame.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot, Gilbert Bribois.
Il est 23h45, Thibaut Leplat est là, Walid Acherchour est là. Avant de parler des autres clubs de Ligue 1, on va faire un petit point Mercato. Je ne sais pas si on a notre jingle Mercato, le célèbre, le plus ancien de l'histoire de l'after. On ne l'a pas mis tout à l'heure, on aurait pu, on le met maintenant.
C'est combien?
30 000.
Attends, je vais te le marcher.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
C'est la version courte, mais ça passe toujours. Le Barça veut Thomas Meunier, figurez-vous. Il continue de recruter, hein, donc ça recrute. Voilà, Meunier est chaud pour y aller. Donc,
Il faut un mec à droite parce que Dest, je crois, est parti ou va partir.
Il va partir.
Daniel Alves aussi. Et mettre Arojo ou Koundé, c'est contre-productif.
Encore faut-il qu'après il soit qualifié.
Ouais. Et après, Thomas Meunier, sur les derniers mois à Dortmund, c'était vraiment pas extraordinaire, loin de là.
Thomas Meunier, oui, sur Twitter aujourd'hui, qui était très, très, très attentif sur ce qui se passait pour les célébrations du 15 août. Il retweetait les trucs, Notre-Dame de Lourdes, tout ça, et s'est fait une petite journée religieuse.
C'était l'Assomption, oui, voilà. Le 15 août.
Nantes veut Gaël Kakuta. Figurez-vous.
Pour remplacer Ludo Blas s'il part à Lille,
peut-être. Mais enfin, c'est pas gagné. Il reste encore une année de contrat à Kakuta. Donc s'ils veulent le vendre, c'est maintenant.
Mais je comprends pas.
Il y a Ronaldo qui est disponible aussi, hein, si jamais ils veulent.
Oui, voilà. Alors attention, Kakuta, il a aussi des clubs italiens qui sont sur lui.
Mais Kita a dit qu'il n'allait pas répondre aux pressions de Comboiré, parce qu'il est sorti ce week-end.
Il est bon, Kita.
Hein? Oui. Kakuta, ça pourrait être une bonne recrue, même s'il a été régulé l'année dernière. Ouais,
Kakuta.
Il a envie d'aller à Nantes.
Ouais. Parce que quitter Lens pour aller à Nantes. Ouais. Après, à voir si à Lens il est plus.
Kakuta est capable de superbe fulgurance, mais sur la durée.
Sur la durée, il a avec les petites pépins physiques.
Il disparaît des fois pendant 3-4 matchs, puis tout à coup il réapparaît, mais un doublé. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, petite info nantaise du soir. En tout cas, le mercato nantais risque quand même de bouger encore, malgré, comme tu le disais, le petit feuilleton. Le petit feuilleton Kita. Écoute, Kita Comboiré. Tiens, si on faisait un point top 50 avant de revenir sur notre journée du week-end. Retour du jingle top 50, bien sûr. Ça, il faut s'en souvenir.
Oui, il est trop jeune, je pense.
Ouais. Tu n'as pas de ça?
Je suis pas dedans, moi. Ah non. Moi, j'ai commencé avec Machine, moi. Charlie Lulu.
Ça, c'était bah, quand Thibaut et moi,
quand moi, je n'étais pas abonné à Canal.
Moi, c'était quand on était ados.
Moi, c'était je m'appelle Charlie et je m'appelle
avec Marc Toesca. Ah oui, d'accord. Voilà, numéro 1, Désirless.
Je vais rentrer ce soir à la maison, je vais demander
à mon père.
C'est une institution, hein, cette émission.
Sabrina.
Ah oui.
Mais faut imaginer, on n'avait pas.
C'était quand le week-end?
Samedi. Moi, je te dis, moi, j'avais pas Canal, mais à la récré, tout le monde me parlait du top 50. C'était le seul moyen.
Attends, c'était sur Canal là, au début.
C'est sur quoi?
C'était sur Canal, Gilbert.
Sur une autre chaîne gratuite.
Pas sur M6.
Pour moi, ça a toujours été sur Canal.
Ah bon?
Ouais, c'était Canal, t'avais ça.
En clair.
T'avais les... Non.
Et donc, toutes les semaines, t'avais les classements des ventes.
D'accord. Et t'attendais, t'allais voir les 10 premiers.
T'avais acheté ton disque.
T'avais monté la sauce et tout, etc. Et t'avais.
Ouais, mais... il hallucine.
Non, mais c'est l'époque où.
Parce que c'était le début de l'influence.
C'est l'époque où t'attendais à la radio. Ah, ouais. Quand t'aimais bien un morceau, t'attendais à la radio.
Et combien elle était classée?
Non, t'attendais que le morceau passe pour pouvoir l'enregistrer avec ta cassette. Et t'attendais toute la journée, parfois, et t'avais jamais le début. T'accrochais jamais le début de la chanson.
Et après, tu te prenais la pub de Carglass qui te coupait la.
Et maintenant, il y a Apple Music. Pour savoir qui est numéro 1.
On parlait tout à l'heure de la patience. C'est ça, la patience. Mais c'est la patience. C'est pas parce qu'on était plus malin ou plus vertueux, c'est juste qu'on n'avait pas le choix.
On était
obligé d'être patient.
Vous êtes nostalgique de ça?
Donc, le principe du top 50 était de classer les meilleurs, les tubes du moment.
Oui.
Donc, nous, dans le top 50 de l'After, pour ceux qui n'ont pas connu la première version il y a quelques années, on classe les magnifiques punchlines. Et au fur et à mesure, ça rentre dans l'année. Alors, au début, on en a une, on en a deux, on en a trois. Puis, au fur et à mesure, on en a parfois jusqu'à 200, 300 sur une saison. Là, on a les deux premières de la saison. Je vous propose de faire rentrer en premier Fonseca, le gardien de Lille. Conférence de presse, entraîneur. J'ai dit gardien. Pourquoi j'ai dit gardien? Entraîneur de Lille, à qui on demande s'il se sent bien à Lille, s'il est bien installé. Écoutez sa réponse.
I will confess, I will finish now and I will go to IKEA, Conforam, to help my wife to choose the things.
Voilà. Ouais. Donc, il faut qu'il aille à IKEA.
Et IKEA, Conforama.
C'est pas un peu cheap pour un entraîneur de Ligue 1, IKEA?
Ça, j'aime bien, moi. Ça, j'aime bien le côté.
Ouais.
Non, mais tu sais, non, mais
c'est le côté pratique. Le côté dans 6 mois, je suis plus là.
Voilà. Il va aller acheter.
Je suis un nomade.
Voilà, j'achète du IKEA. Mais non, parce qu'il y a
un petit meuble Billy à 40 euros.
Où que t'ailles dans le monde, c'est toujours les mêmes meubles. Donc, tu sors au Brésil, au Portugal, à Lille, etc.
Tu refais le même salon.
Tu veux qu'il aille où? Tu veux qu'il fasse les braderies de Lille?
Ah, des magasins de meubles. C'est un peu classe, quoi.
Ah, oui. IKEA, c'est très bien.
On sent que c'est une sortie familiale. Il y va avec sa femme, il a promis, etc.
Ah ouais, tu penses qu'il s'arrête à acheter des boulettes de viande et tout?
Je sais pas, j'avoue.
Fonseca,
que...
tu penses à Lille, il est reconnu aujourd'hui?
Bah quand même.
Je suis pas sûr, moi.
Bon, il peut aller à IKEA tranquille aussi.
Ouais, je pense. À Lille, je pense. Ouais. Sincèrement, il va à IKEA, il n'y aura pas de problème.
Tranquille,
hein. Pas sûr qu'ils aient regardé la Roma ou le Shakhtar, hein, je pense.
Et puis, deuxième entrée au top 50, Wally la Cherchour.
Non.
Pour ça.
Ah oui.
Je ne sais pas le mot en français, refurbishing, mais pour rafistoler un petit peu.
Le
rembourré.
Ouais, ou je sais pas.
Non, ce serait ça, rembourré. La traduction littérale, ce serait ça, mais.
Le rénovement, le rénovement.
Voilà, rénovation, la rénovation.
La rénovation. En tout cas, même par moment.
C'est mieux, la rénovation.
Tout ça, parce que ça...
Merci, Wally.
Ouais, c'est beaucoup mieux. Mais ça, c'est le problème, c'est quoi? C'est que, déjà, je pensais pas faire le top 50
d'entrée,
boum. C'est un honneur. J'aimerais remercier ma maman, mon papa, qui m'a mon producteur,
Jérôme
Thomas. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai aidé un collègue. Julien Laurence, qui cherchait son mot. Et tout le monde, si on écoute bien l'extrait, pendant une minute, pendant 30-40 secondes, tout le monde cherche le mot.
Oui,
et j'ai fait une passe D.
Oui.
C'est ce qu'on appelle une passe décisive.
Non, c'est pas ça que
si,
t'as fait.
Si, Gilbert.
Je vais te dire ce que t'as fait, moi. T'as fait Paredes qui vient défendre Neymar et tu prends le carton à sa place.
Exactement.
Voilà.
Mais voilà, c'est aider les copains. C'est aider les copains avant tout. Et voilà, tout de suite, c'est moi qui prends.
Bah, t'aurais pu faire une mini qui a un double carton.
Et d'ailleurs, t'es un spécialiste parce que quand Florent Gautreau cherchait le dessin animé avec les chiens.
Oui, Aristochat.
T'as encore fait une parade.
Exactement, c'est pas faux.
On a l'extrait d'ailleurs.
Ouais,
ça mériterait le top 50.
L'Aristochat.
Bah oui, ouais. L'année dernière. C'est pas le top 50.
Ouais. Je me tape le jingle.
Bon, les gars, il nous reste quelques minutes. Chacun va me donner une équipe, soit qui vous a plu, soit qui vous inquiète. Je commence. Je suis inquiet pour Nice, qui n'a pas montré grand chose face à Strasbourg.
Oui. Avec un Schmeichel qui les sauve à plusieurs reprises.
Exactement. Alors Favre, plein de bonnes intentions et tout.
Mais les mêmes problèmes qu'avec Galtier, les mêmes problèmes qu'avec Dier.
L'effectif, il n'est pas si fou, exactement. Il reste quelques jours, il reste 15 jours de mercato, là. Je ne sais pas si vous partagez mon inquiétude, mais il y a du boulot pour Favre.
Oui, il y a beaucoup de boulot. Et puis en plus, il revient dans un club où il a laissé quand même une trace, une très belle trace. Donc c'est très, très dur de revenir une deuxième fois.
C'est un club qui est un peu déstabilisé par le passage éclair de Galtier. l'échec Vieira. Là, il y a un gros engouement sur Favre, mais qu'est-ce qui va se passer si ça marche pas?
Il a pas eu les recrues.
Qu'est-ce qui va se passer pour Favre et qu'est-ce qui va se passer pour River, parce qu'il s'est mis quand même au premier plan.
Il a pas eu les recrues qu'il faut, Thibaut. Je suis désolé, mais
là, il y a Schmeichel,
voilà, très bien.
Schmeichel, c'est très bien.
Ouais, très bien.
Ramsey, je pense que bon.
Voilà, Ramsey, il était remplaçant aux Rangers.
Il fait des bonnes entrées là.
Oui, mais c'est plus un coup médiatique que je pense que Favre ne le voulait pas, Ramsey. Et puis derrière, il y a quoi d'autre?
Ilié, c'est pas mal, mais c'est pas fou.
Oui, déjà,
il y a le problème du fair play financier.
Il y a Dante qui a 38 ans, qui malheureusement ne peut pas jouer si haut que ça, dans une défense très très haute. Moi, c'est vrai que je partage un petit peu ton inquiétude, mais je les vois pas top 5, moi, cette saison. J'ai du mal à les voir top 5.
En tout cas, pas en l'état.
Ouais,
pas en l'état. Thibaut, le club dont tu voulais parler?
Moi, alors, parce que je vais pas dire Toulouse, parce que tu vas en parler. Moi, je voulais parler de Lille. Je trouve que c'est, là, pour le coup, on parle de stratégie. Là, on a une certaine, un changement de stratégie un peu de la part d'Olivier Létang et du LOSC qui est en train d'essayer de solder un peu les années Lopez, et qui change un peu maintenant qui continue un peu sur l'idée de proposer un football plus ambitieux, plus spectaculaire. Et je trouve que le recrutement de Fonseca, alors ça va pas plaire à l'UNICATEF évidemment, parce qu'il parle de spectacle, il parle d'attirer du monde au stade, etc.
Mais ça va plaire à Ikea par contre.
Ça va plaire à Ikea. et j'achète toujours ce type de discours-là, parce que je trouve que c'est celui qui nous emmène tous vers le haut, qui tire tout le monde vers le haut. Et donc j'espère que j'ai vu des bonnes choses sur les deux premiers matchs, notamment Cabella. J'ai redécouvert Cabella, qui a été recentré. Je trouve que c'était vraiment la vraie bonne surprise de ces deux premières journées avec Toulouse. Et Lille, ce changement d'orientation et cette ambition dans le jeu doit être souligné. Et je pense qu'il faut toujours aider et toujours aller pousser ce type de décision. Donc je suis assez surpris.
Donc toi, tu vas suivre Lille de près.
Oui, cette année, je vais suivre Lille de près. Ouais. Lille et Lorient, bien sûr, mais dont je reparlerai certainement.
Oui, ils n'ont pas joué ce
week-end.
Malheureusement, je ne peux pas parler de Régis.
Petite parenthèse sur Lorient. Franchement, Ferry est gonflé d'allumer au LAS. Il n'a pas été capable d'organiser son début de saison avec la Ligue pour jouer peut-être à l'extérieur deux fois de suite.
Après, il y a un super festoche, Gilbert, t'es dur.
Mais oui, mais c'est pour ça la faute de Lorient.
Mais la Ligue 1,
Lyon, ils auront à avoir dans l'histoire.
La Ligue 1, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, la Ligue 1?
Quand t'es pas propriétaire de ton stade, il t'arrive ce genre de choses.
Super festoche, faut respecter.
Dans ces cas-là, tu es profil bas, tu dis pardon, tu reviens la prochaine fois et t'as une qui est pour rien.
Moi, c'est Toulouse, parce que sur les deux premières journées, ils m'ont agréablement surpris. J'ai pas eu l'occasion de les voir en Ligue 2 l'an dernier. On en disait le plus grand bien, et je trouve que la qualité des joueurs est quand même assez intéressante au milieu de terrain, notamment la première mi-temps qu'ils ont fait contre Nice, même s'ils ont un peu décliné en deuxième, elle a été très très bonne, pleine de personnalité, de petits jeux. Et là, contre Troyes, mais et en mine danse, hein. Il y a pas eu photo sur la rencontre. Le petit Dalinga devant, de Jäger, je sais pas si je prononce très bien.
De Jägereux.
Je trouve que c'est des profils de joueurs, Van den Boomen. C'était vraiment des styles de joueurs que j'aime beaucoup.
Ça apporte quelque chose, quoi. Ça apporte quelque chose.
Et voilà, Montagnier revient en Ligue 1. On sait pas jusqu'où ça va durer, mais je les avais pas mis dans mes quatre qui descendent cette saison. Et pour l'instant, ça tient bien. Et surtout avec de la personnalité et du jeu, quoi. Le jeu qu'on aime.
C'est fini, 23h56. Les gars, je vous place quand même que la revue de l'after est de retour bientôt, le numéro 6, fin août. La thématique, les gars, analyse du peuple du football. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes la saison dernière dans les tribunes. Donc on fait un décryptage très précis des tribunes. Attention, pas que les virages. On va dans les loges, on va dans les tribunes présidentielles, on va dans les tribunes un peu plus anonymes.
C'est quoi le plus bel article de...
Ah, il y en a plein.
Ouais. Ton préféré?
Ouais, je sais pas, comme ça.
Comme ça, ouais, la volée.
Ah, je veux dire que l'article qui s'appelle Le Peuple des Loges.
Ouais.
Est très très bon.
Il est fait
par Jimmy Brown.
Il
y a aussi un témoignage magnifique des supporters nantais qui dialoguent, et notamment une supportrice nantaise qui a 80 ans, qui raconte son attachement à Nantes et tout, et qui dit, moi, quand je vais mourir, je veux qu'on mes cendres soient éparpillées sur le terrain. C'est des supporters qu'on n'entend jamais, en fait.
Ouais.
Ça sort bientôt. C'est d'ores et déjà sur afterfoot.media. Vous pouvez vous abonner. Et commandez votre revue, on en reparlera d'ici quelques jours, bien sûr. Puis lui, Thibault Lepleur, hein, comme d'hab. Allez, à demain, 20h dans l'after.
À demain, ciao.
Comment c'était ce dessin animé où il y a les chiens, là?
Les Aristochats.
RMC. L'after foot.